Bertrand, vous recevez aujourd'hui Christian de Fouloir, ancien président des Républicains américains, donc un des Républicains de Belgique. Messieurs, c'est à vous.
Bonjour Christian de Fouloir, et vous êtes un fervent supporter de Donald Trump et candidat déclaré au poste d'ambassadeur des États-Unis en Belgique. Donald Trump qui évidemment va être investi aujourd'hui, inutile de le rappeler qu'il est extrêmement clivant, il suscite un énorme enthousiasme chez ses supporters, mais aussi beaucoup d'inquiétudes chez les autres. Résultat, une impopularité record pour un début de mandat entre 40 et 44% dans les sondages seulement. Christian de Fouloir, à quoi ressembleront selon vous les premiers jours du président Trump?
C'est une nouvelle Amérique qui va commencer. Je crois qu'il va s'atteler d'abord aux questions d'emploi.
Oui.
C'est-à-dire faire revenir des jobs aux États-Unis. Ça, c'est 75% des citoyens américains souhaitent qu'il s'y attelle.
Okay. Oui.
En deuxième chose, il va s'occuper, je regarde ici la liste, si vous voulez, parce que j'avais dressé une liste,
oui.
75%. Ensuite, éviter que les jobs, ça c'est aussi 75%, que les jobs partent au Mexique ou au Chine, ouais, ou autre part.
Ça semble déjà être, avant même qu'il soit officiellement investi, peut-être une de ses, on verra si elle est temporaire ou durable, mais une de ses premières réussites, c'est qu'il y a une série d'annonces de grands constructeurs automobiles américains notamment, mais il n'y a pas que dans l'automobile, qui ont annoncé que, eh bien, des restructurations ne se feraient pas et que des emplois, finalement, des délocalisations ne se feraient pas et que les emplois resteraient aux États-Unis.
Exactement.
Ouais.
Alors, troisième point, 74% aussi, c'est de faire en sorte qu'on, après cette élection qui a été quand même assez dure, qu'on puisse rassembler tout le monde et qu'il y ait une unité. Je dois dire, puisque nous parlons aujourd'hui de l'inauguration, que je suis un peu consterné que plus de 60 représentants de la Chambre des représentants ont décidé de ne pas se joindre à l'inauguration.
C'est très clivant, comme on le disait, c'est peut-être un des présidents les plus clivants de l'histoire.
60 représentants, ça représente presque un quart, si vous voulez, de la Chambre des représentants. Et je crois que ce n'est pas la question de Trump, c'est une question de respect pour la fonction présidentielle et également lorsqu'il y a des élus, ils sont encouragés, si vous voulez, à être
présents. Mais est-ce que le principal responsable de ça, c'est pas Donald Trump lui-même qui a fait une campagne qui n'était pas toujours à la hauteur de la fonction présidentielle? On va pas rappeler les insultes, Alex Vizorek les a un petit peu rappelées dans son billet d'humour. Mais est-ce qu'il a été vraiment à la hauteur de la fonction pendant la campagne, Christian de Fouloir?
C'est un homme qui a un franc-parler.
Okay, oui. C'est incontestable.
C'est un homme qui vient de l'immobilier, c'est pas l'homme du sérail, c'est pas l'homme que de Harvard ou de Yale, comme l'ont été George W. Bush ou comme l'ont été John Kerry. Mais il parle avec beaucoup de réalisme. C'est un homme qui parle vrai, comme il s'adresserait à un électricien, à un plombier, aux gens qui travaillent sur les chantiers. Et ça, c'est pour cela, compte tenu de ce qui se passe, les démocrates ont été déçus, okay, ont été consternés.
Oui.
Ils n'ont pas encore digéré. Mais la preuve, c'est ce que je vous disais, c'est qu'il y a 200 000 personnes après le jour de l'inauguration qui vont défiler dans Washington.
Oui, que l'Amérique est divisée comme jamais quasiment, lors d'une inauguration.
Exactement, c'est vrai. Oui. Que le processus de confirmation des membres du cabinet prend plus de temps qu'il n'en faudrait. Qu'à cette époque-là, au temps de Obama, il y avait eu déjà beaucoup plus de confirmations effectuées. Nous avons encore des confirmations de John Mattis, de Mattis, Maddox, comme on l'appelle, à la Défense, de Rex Tillerson et d'autres. Vous
beaucoup
voyez
de personnes clivantes aussi. On se disait que pendant sa nomination, pendant toute cette période entre son élection, pardon, et son investiture, il allait donner des signaux pour essayer de réparer un petit peu cette Amérique divisée en nommant des personnalités peut-être plus consensuelles. Et on voit que ça n'a pas vraiment été le cas. Il y a une série de nominations qui sont très conflictuelles, on ne va pas les rappeler toutes, mais il y en a vraiment plusieurs qui posent des gros problèmes.
Prenons les deux qui sont importants dans mon point de vue, c'est-à-dire la défense avec Mattis, qui est un homme remarquable, il était dans son Colorado, il n'avait même pas envie de revenir à Washington. Et Rex Tillerson, qui m'impressionne beaucoup. Enfin, on n'est pas le chairman et le CEO de Exxon sans avoir les capacités pour le faire. C'est un homme remarquable. Et je crois que ses choix sont des très bons choix.
Oui. Quand on voit, par exemple, que l'ancien gouverneur du Texas, Rick Perry, est à l'énergie et qu'il souhaitait l'abolition du ministère dont il va avoir la charge. Enfin, de l'agence de l'énergie dont il va avoir la charge.
Oui, mais ça, comme dirait Alain Delon, c'était avant. Maintenant, ça, c'était avant, vous voyez ce que je veux dire. Non, je voudrais plutôt qu'on me parliez de l'Europe. Parce que
oui, mais on va parler de l'Europe. Okay. Mais encore un moment là-dessus, encore une minute là-dessus, sur le fait que, à travers ce qu'on sait de la nomination de ses collaborateurs, etc., il y a beaucoup de polémiques. Est-ce que ça ne risque pas de continuer à diviser l'Amérique, ces divisions-là. Monsieur Bannon, par exemple, le fondateur du site Breitbart, qui est nommé au sein de son cabinet, qui est un site quand même très violent parfois, Christian de Fouloir. Est-ce que ça pose pas problème? Est-ce que c'est pas des signaux qui doivent légitimement inquiéter les démocrates, ça?
Alors, la grande opportunité, c'est qu'on a un congrès qui est un congrès républicain. Mmh. Ça va certainement faciliter la tâche entre l'exécutif et le législatif, puisque la Chambre des représentants et le Sénat sont à majorité républicains. Oui. Il va y avoir autour de Trump, il y a évidemment un cercle restreint, mais il y a également, ce que j'appellerais des gens qui vont essayer d'apaiser les choses.
Des stabilisateurs. Les républicains vont tenter. C'est-à-dire que c'est les républicains qui dirigent pas tellement Trump?
Je pense que, si vous voulez, des gens comme Priebus, des gens comme Mattis, des gens comme Rex Tillerson, qui ont marqué un petit peu leur divergence avec le président Trump, vont faire... Vous savez, il va grandir dans ce job. Quand on commence dans un job comme ça, surtout pour lui, qui n'a jamais été dans la politique, il va se développer. Donc, et finalement, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, finalement, ce qui compte, c'est les conseillers qu'il aura autour de lui.
Alors, vous le disiez tout à l'heure, c'est une page qui se tourne pour l'Amérique aujourd'hui, Christian de Fouloir, et c'est peut-être une page pour l'Europe et pour le monde. La relation avec l'Europe. Si on écoute bien cette dernière déclaration, il souhaitait presque la disparition de l'Europe. C'est-à-dire qu'il a dit d'autres pays que l'Angleterre, enfin que le Royaume-Uni vont quitter l'Europe et il se réjouissait du Brexit. Ça veut dire que finalement pour lui, l'Europe elle doit disparaître.
Non, il y a plusieurs choses. Alors il faut revenir au 11 novembre. Moi j'étais ici le 9 novembre. Le 11 novembre,
président. Au lendemain de l'élection.
Président Juncker fait une déclaration à Luxembourg devant des étudiants en disant exactement il va falloir qu'on apprenne au président élect ce qu'est l'Europe et comment ça marche.
Oui.
Bon, c'était pas très fin de sa part. Je sais que M. Juncker supportait beaucoup plus Hillary Clinton que M. Trump.
Sans doute, c'est vrai.
Okay. Oui. Deuxième chose, il y a ces déclarations qui ont été faites à la presse, au journal Bild allemand et puis au Times. Okay. Et là-dessus, j'ai écrit un papier parce que finalement, on a pris... Vous me parlez du Brexit. Il faut savoir que avant le Brexit, Trump, qui connaît bien le UK, sa mère adorait le UK.
Oui, c'est ce qu'il dit dans cet interview. Il a une relation particulière.
Oui, c'est son golf là-bas en Écosse.
Il a investi.
Et puis surtout, il y a ce Nigel Farage qui lui a monté la tête, je pourrais dire.
Oui, Nigel Farage, donc c'est le leader de UKIP, c'est la formation qui a joué beaucoup, qui a pesé tout son poids dans le Brexit.
Et qui était l'un des premiers, si vous voulez, à la Trump Tower pour rencontrer Trump.
Mais ça revient quand même à l'idée qu'on a un président américain qui est presque ouvertement hostile à l'idée de l'Union européenne. Quand même.
Non, je ne pense pas.
Il le dit.
Il dit la chose suivante. Il dit que
d'autres pays vont quitter l'Europe.
Qu'il prédit que d'autres pays vont quitter l'Europe parce que. Mais sur quoi s'appuie-t-il? Il s'appuie sur le fait que, et ça c'est vrai, c'est qu'il y a 30% de la population en Europe qui est anti-européen. Donc la question, c'est pas Trump, c'est la défaillance européenne.
Mais il met le doigt dessus.
Il met le doigt dessus, ce que je veux dire.
Il met le doigt où ça fait mal, et les Européens se sentent légitimement, au niveau institutionnel, Jean-Claude Juncker et d'autres, se sentent légitimement attaqués en se disant, tiens, il veut pas notre bien, il veut pas le bien de l'Union Européenne en tant qu'institution.
Non, il est président élu, il répond aux questions de journalistes comme observateur, based on facts, de mon point de vue, sur des bases de faits. Lorsqu'il parle de la dominance de l'Allemagne en Europe, Je conclus qu'effectivement, depuis quelques années, l'épicentre s'est déplacé de Bruxelles à
c'est
Berlin.
C'est la puissance politique dominante en Europe,
absolument,
l'Allemagne. C'est pas un scoop,
absolument.
C'est vrai.
Lorsqu'il parle que ça a été catastrophique, c'est pas lui qui le dit. Alternative Deutschland et d'autres...
Oui, mais ça, c'est un parti quasiment d'extrême droite. Oui. Alternative
sans parler d'extrême droite, il y a beaucoup de gens en Allemagne qui se rendent compte, et elles-mêmes... comme dirais-je, Merkel
Angela
a fait son
mea culpa
vis-à-vis de cette politique. Elle a pris, Merkel s'est engagée sur cette voie des réfugiés sans même vouloir consulter avec les autres États membres, vous voyez.
Alors, un mot sur ce que pourrait donner le protectionnisme à la sauce Trump. Dans cette fameuse interview dont vous venez de faire mention avec le Times notamment récemment, il disait, il critiquait vivement le fait que les Américains roulent dans des voitures allemandes. Il disait, quand on voit que tout le monde a une Mercedes garée devant chez lui à la 5e avenue, or le fait est, et je le cite, hein, que vous les Allemands êtes très injustes avec les États-Unis. Combien de Chevrolet avez-vous en Allemagne, dit-il? Pas beaucoup. Eh bien, moi je veux que ce soit juste. Vous pouvez fabriquer des voitures aux États-Unis, mais pour ça, vous devrez payer 35% de taxes sur chaque voiture que vous allez vendre aux États-Unis.
C'est le cas de BMW. Devait aller fabriquer ses voitures au Mexique, c'est pas aux États-Unis,
oui, oui.
Puisque BMW est déjà présent aux États-Unis.
Oui, mais donc, c'est quand même une déclaration... dire très hostile de dire, tiens, je vois que les Américains roulent beaucoup trop, selon moi, en voiture allemande, donc on va les taxer.
Non, il a pas dit qu'il allait taxer les voitures allemandes aux États-Unis. Il a simplement dit que si BMW devait quitter les États-Unis pour aller fabriquer
ses voitures ailleurs,
à ce moment-là, il serait sujet à 35%. Je crois, vous savez, it's a deal. Oui, ce qu'il veut, qu'est-ce qu'il recherche?
Il impose sa puissance.
Non, il impose pas sa puissance. Il veut fairness, il veut une justesse, il veut une équité. Vous voyez ce que je veux dire? La même chose avec la Russie, puisque vous m'aviez parlé de la,
pourquoi oui,
la
Russie. Il nous reste 30 secondes, il va falloir aller
la Russie, c'est
de
respect et équité. Voilà. Respect et équité. Voilà, c'est tout.
Voilà, encore un mot, 30 secondes, sur si jamais vous êtes nommé ambassadeur de Belgique, puisque vous êtes officiellement candidat, c'est ce que vous nous aviez dit, vous allez lui dire quoi de la Belgique, que toute la classe politique, sauf peut-être Michael Modric-Amen du Parti Populaire, lui est défavorable?
Non, je crois que moi j'ai été très sensibilisé par la déclaration de Monsieur Charles Michel, que j'ai bien connu sur le plateau,
oui,
et qui a indiqué qu'il ne fallait pas isoler la Russie. Et je crois que c'est quelque chose sur lequel on peut insister, vous voyez.
Okay.
Une nouvelle Amérique va commencer ce soir. Trump va s'occuper d'emploi, tenter de rassembler. C'est un homme qui a un franc-parler. Ce n'est pas l'homme du sérail, mais il parle avec réalisme, il parle vrai. Et il va grandir dans ce job et se développer, surtout lui qui n'a jamais fait de politique. Les démocrates n'ont pas digéré la campagne. Je suis consterné parce que plus de 60 parlementaires ont décidé de ne pas être présents ce soir à l'investiture. C'est une question de respect pour la fonction présidentielle. Déclaration de Christian Defouloy ce matin.
Matin première, 6h-9h.